Alors bonsoir à tous, merci d'être venus. Encore une fois, on remercie la municipalité de nous prêter cette belle et grande salle. Parce que, comme vous le savez, à la Pub en Vol, tout est gratuit. Donc, on a vraiment besoin de cette aide pour vous offrir les conférences que nous programmons tous les mois. Ce soir, la soirée est sous le signe de Movember. Alors, Movember, vous avez une table là, avec de la documentation. Movember, c'est une opération destinée à sensibiliser le public sur le dépistage des problèmes de santé masculins. Il y a Octobre Rose, vous connaissez depuis des années, maintenant il y a Movember pour ces messieurs. Alors vous avez plein de documentation, vous avez des petits gadgets aussi, et puis surtout vous avez des petites tirelires si vous voulez donner pour la recherche sur le cancer. Tous vos dons seront donnés à l'association Cancer et moi. Et cette opération est pilotée aussi par le comité des fêtes de Rieux-Volvestre et l'association Cancer et moi. Alors, n'hésitez pas et merci d'avance de votre générosité. Pour la conférence sur le rugby, nous tenons à remercier les membres du club de rugby de Montesquieu et Frédéric pour leur aide très efficace et très intense pour la communication. Ils nous ont aidés en fait à communiquer avec les clubs et les écoles de rugby. Le partage aussi des messages sur les réseaux sociaux et la distribution des affiches dans les commerces. Et on les remercie beaucoup. Et maintenant, je laisse la parole à M. Loison, qui est géographe, qui est géopoliticien, peut-on dire ? Oui, spécialiste en géopolitique, et qui va nous parler des valeurs du rugby. À vous.
Merci. Ah oui, ok. Bon, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Je vous remercie d'être présent là pour écouter ce que je vais pouvoir vous conter. Et évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet. Combien de temps je vais mettre? C'est une grande question systématique. Des fois, on dit une demi-heure. Certainement pas, cette fois-ci. Trois quarts d'heure, je vais essayer. Mais ça peut faire une heure. Je suis vraiment désolé si c'est un peu long.
Non, c'est bien.
Voilà. Alors, d'abord, on va essayer de... Comment ça marche? Alors, pardon. L'ordi est éteint. Ça va arriver. Oui, c'est bien que marche. C'est fantastique, la technique, hein. Vous êtes comme moi, c'est difficile de suivre les évolutions très rapides. Alors qu'est-ce que vous voulez? Non, je vais dire. C'est bon. Non. Tout va bien. Alors là, une minute. Voilà, le son va-t-il? Oui? Le Volvestre, pays du rugby occitan, un rugby qui se construit par l'engouement, l'éducation, l'affiche là le montre, et la persévérance. Est-ce qu'il y a un avenir mondial pour le rugby du Volvestre? Ah, qui sait, peut-être des jeunes pousses qui vous surprendront. J'en ai vu beaucoup parmi vous ce soir. Voilà. Alors, c'était pas rigolo, c'était déjà tout à fait. Voilà le sujet que je voulais vous présenter, la planète rugby, ses valeurs et la mondialisation. Vous allez entendre des choses que vous connaissez certainement beaucoup. On va donc pouvoir se retrouver sans problème. Nous faisons partie d'un monde en France qui de plus en plus est intéressé par le rugby. Quand on voit le nombre de téléspectateurs pour les finales du top 14, c'est vraiment impressionnant, parce que là, pour l'an dernier, on était à près de 5 millions de téléspectateurs. Donc il y a une progression de l'intérêt pour le rugby qui est évidente. Plus de 200 ans de rugby. On a déjà fêté la 200e année. D'où vient-il? Où va-t-il? Engagé dans la mondialisation, comment conserver ces belles valeurs? On part de l'a priori que le rugby, au départ, dès le départ, est paré de belles valeurs. Et donc ces belles valeurs vont-elles se perdurer dans le cadre de la mondialisation? J'espère, vous aussi. Alors d'abord, voilà, que des choses très classiques. Un jeu anglo-saxon né à rugby. Alors vous connaissez certainement l'histoire, le récit de William Webb Ellis qui aurait, à une époque où il n'y avait pas vraiment de règles dans le monde du football, puisque dans le monde du football on mettait ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le rugby. Et voilà, c'était le football. Et donc il n'y avait pas vraiment de règles. Mais en général, on se faisait la passe, on tapait au pied, enfin, etc. Et puis lui, il aurait eu l'idée de prendre le ballon dans les bras et de l'amener jusqu'à la ligne d'un but. Voilà. Et ainsi serait né le rugby avec l'idée de marquer des essais. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée-là, peut-être c'est un mythe qui a été créé. Mais cet élève de l'école de rugby a existé, ça c'est sûr. Et il est même devenu prêtre, pasteur, et il est décédé sur la Côte d'Azur à Menton. Voilà. Ceci étant, il est glorifié. Et cet événement de 1823, ça nous situe dans le temps, on est au début du 19e siècle. Et cet élève, il est dans un collège dans la ville de Rugby, dans la région pas plus loin de Londres. Et Rugby, alors un collège, c'est pas un collège au sens français d'une école du second cycle. Non, un collège, c'est une sorte d'université. Voilà. Où il y a des chercheurs, des professeurs. Voilà ce qu'est un collège. Et où il y a surtout l'élite aristocratique et bourgeoise de l'Angleterre de cette époque-là qui fait ses études. Mais, comme c'est écrit, un collège en quête d'un jeu pédagogique. Je vais en reparler. On dit, vous le savez, que c'est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. On dit aussi que le football, à l'inverse, c'est un sport de gentlemen pratiqué par des voyous. Bon, enfin, à vous de vous y retrouver. L'idée, c'est surtout que c'est un sport où la violence peut s'exprimer, où le contact, en tout cas, peut s'exprimer. Alors, ce sport rugby est-il arrivé comme ça, transporté par des cigognes? Non, il y a des antécédents. Alors, dire qu'un des sports que je vais citer, pas sport, mais pratique physique, est-ce qu'il y a une de ces pratiques qui aurait enfanté le rugby? Ça, pas le dire, hein, c'est trop compliqué. Mais il y a eu, bien sûr, des activités avec des ballons qu'on se passait. Dans la Grèce antique, c'est connu. Assez connu, c'est assez célébré. Il y a des figurations, des fresques sur l'Aspartum, qui était un jeu romain. Et plus près de nous, il y a le calcio. Alors le calcio, c'est, vous avez une photographie là, de l'épisode du calcio récemment prise. Là. Le calcio, c'était, ça se jouait à 25, 20 contre 20, à peu près. Et évidemment, vous voyez, il y avait tous les moyens étaient bons pour empêcher l'adversaire d'arriver jusqu'à la ligne d'un but. Et c'était en Toscane, à Florence. Donc chaque année, là, enfin, chaque année, ils essayent en tout cas. Il y a quatre quartiers qui s'affrontent et ils essayent de renouveler ce calcio qui, même à un moment donné, avait été interdit, tellement il était violent. Bon. Et puis il y a quelque chose de beaucoup plus connu chez nous, c'est la soule. Alors la soule, il était courant dès le Moyen-Âge, les lundis, c'était des jours de fête, que les gens s'affrontent de différents villages dans des pratiques sportives. Ça pouvait être le lancer d'un tronc, comme les jeux de force basque, vous savez, des choses comme ça, la course à pied ou autre. Et il y avait la soule. Donc la soule, c'était un peu plus collectif, où deux équipes de deux villages différents s'affrontaient et devaient transporter l'équivalent d'un ballon, une baudruche souvent. Ouais, là, par contre, vous le voyez, c'est presque un ballon, hein, avec du tissu enveloppé dans du cuir. Et il fallait qu'ils l'amènent dans le camp de Herse, ou dans leur propre camp ou dans leur propre village. Voilà. Alors la soule a existé pendant très longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle, et elle était très populaire dans l'ouest de la France, de la Normandie jusqu'à, pas vraiment jusqu'à l'Aquitaine, on va dire, hein, et même depuis la Picardie. Et il y a eu souvent des violences et des morts, mais c'était parfois très, ça défiait l'actualité. À tel point que les rois, à deux ou trois reprises, ont interdit la pratique de la soule. Voilà. Donc il y a quelques précédents. Alors le rugby, c'est un jeu, vous le savez tous, bien sûr, qui se distingue des autres. Il se distingue des autres d'abord par un ballon. J'ai repris le ballon de la soule pour montrer quand même une filiation. Et puis là, on a le ballon moderne, synthétique, plus du tout en cuir. Il glisse beaucoup moins dans les mains. C'est un ballon synthétique qui est fabriqué par la même firme qui fabriquait les ballons depuis la fin du 19e siècle, la firme William Gibert, hein, vous connaissez. Et ces ballons, ils sont désormais officialisés par soit l'ancien International Rugby Board et aujourd'hui par le World Rugby. Dans chaque Coupe du Monde, on sort un ballon officiel. Ça, c'était celui de 23. Je n'ai pas mis celui de la prochaine. Enfin, bon. En général, c'est aux couleurs du pays qui reçoit. Vous voyez, c'est assez bleu, blanc, rouge. La prochaine, il y aura beaucoup d'orange. Aux couleurs de l'Australie. Et donc, c'est un ballon ovale. Alors, un ballon ovale, ils auraient pu trouver mieux. Quand même. Un ballon rond, ça m'était un peu plus pratique. Mais non, c'est un ballon ovale. Vous savez qu'un ballon ovale, comme disaient les profs de PS, je ne sais pas s'ils le disent toujours, c'est un objet bondissant. Parce qu'ils avaient la pudeur d'utiliser les mots de ballon. Et donc un objet bondissant, alors lui, il bondit plus que les autres et on ne sait jamais dans quel sens. Hein. Donc, il est très particulier ce ballon. Difficile à tenir parfois. Hein. Bon. Et l'apprentissage de la transmission n'est pas quelconque. Hein. Voilà. Bon. Donc le ballon. Il ne faut pas que je ne dise de trop, sinon je ne connais pas. Et puis, évidemment, il y a des moments clés dans le jeu. Alors, il y a deux moments clés. Il y en a un de fondamental, c'est la passe. Si vous voulez aller jouer au rugby, une seule consigne, hein, envoyez le ballon derrière. Si vous l'envoyez vers l'avant, ça n'ira pas, il y a faute. Et donc, il faut envoyer le ballon. Dans le rugby, il y a une particularité, c'est qu'il faut avancer en reculant. Hein, et donc, le ballon se transmet vers l'arrière. C'est pas vrai pour tous les jeux de l'ovalie. C'est vrai pour le rugby à 15 en tout cas, et le rugby à 7 bien sûr. Et puis vous avez un moment du jeu qui est essentiel, qui est exceptionnel, c'est la mêlée. La mêlée qui est jouée, tout le monde le sait bien sûr. Hein, regardez ça. La mêlée, c'est 8 de devant hein, sur les 15 joueurs. Donc 8 qui s'affrontent. Hein, voilà, avec des pressions considérables, et aujourd'hui des pressions de plus en plus terribles, parce que la musculature est considérable, et le poids est considérable, puisque pour l'Afrique du Sud ou pour la France, on arrive presque à une tonne, hein, vous le savez, on est à 850, 860 kg. Donc presque une tonne à 8, hein. On est à ça, là, en ce moment. Hein. Bon, et il peut y avoir plus sur tous les cas, hein, mais bon. Voilà, la mêlée. Alors la mêlée, il y a ce qu'on voit, et ce qu'on vit. Il y a ceux de l'extérieur, de la mêlée, et puis il y a ceux de l'intérieur. ceux de l'intérieur, ils vivent quelque chose d'énorme. D'énorme. De solidarité, de courage, de solidarité surtout. Il ne faut pas que l'un des huit flanche. Voilà. Donc c'est un moment vraiment remarquable. J'aurais pu mettre une autre photo, j'aurais pu mettre un plaquage. Parce que le plaquage, ça aussi, c'est une spécificité de ce jeu. Les plaquages d'aujourd'hui, je ne vous dis pas, ils sont sérieux. Alors, ce rugby a connu une diffusion lente. Alors maintenant, je suis dans le rugby à 15, j'y étais déjà. Il a connu une diffusion lente, plus complexe que le football. Hein. Le football s'est répandu beaucoup plus rapidement et à l'échelle de toute la planète. Ça n'a pas été le cas du rugby. Ça se fait beaucoup plus lentement, de façon plus complexe, vous allez le voir, entre l'élitisme britannique qui ne voulait pas trop partager et les particularismes qui, eux, se sont engagés dans le rugby. On va revoir ça. Alors d'abord, à ses débuts, le monde de l'ovale entre dispersion, diffusion, division, unité. Alors d'abord, la première grande question qui s'est posée dans ce monde du football dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est, ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'on va créer comme jeu. Est-ce que c'est le hacking ou le dribbling? Alors le hacking, c'est est-ce qu'on accepte les contacts rugueux, voilà. Le dribbling, surtout pas de contact rugueux, on dribble, hein, on évite l'adversaire, on le feinte, etc. Donc il y a ce grand choix qui va se présenter. Et finalement, certains vont choisir le hacking, on n'a pas besoin de contact, et d'autres qui vont choisir le dribbling, voilà, on va favoriser. Donc ce sera d'un côté l'espoir de l'ovalie, je dis bien l'ovalie pour tous les sports où il y a un ballon ovale. C'est pas ovalie au sens réducteur qu'on utilise parfois. Donc, l'espoir de l'ovalie, ben, ils acceptent le contact, pas de problème. Et l'espoir du ballon rond, le football, eux, en théorie, c'est plutôt du dribbling. Voilà, c'est pas aussi exact que ça. En fait, l'ovalie, très vite, ben, ils savent pas trop comment, quelles règles choisir, combien il faut être dans les équipes, etc. Et donc, on va avoir plusieurs jeux se développer dans le monde de l'Ovalie. Vous avez le football très très vite, tout ça en même temps. Hein. En Amérique du Nord, où ils voulaient se distinguer des Anglais quand même, hein, les Américains. Ils ont inventé le football américain. Oui, ils ont inventé le football américain, d'où cette image en bas à gauche, là, voilà. Il y a le football canadien, c'est un peu le même genre. Vous avez en bas, on ne le voit pas trop bien, à côté de l'américain, l'Australian Rules, où là, ils jouent à 20 contre 20. En football américain, on joue à 11 contre 11, donc il y a des nuances. Hein. Dans l'Australie, il y a un autre type de rugby qui est très populaire. Très populaire, nous, on ne le connaît pas du tout. Vous avez ensuite, au milieu, là, c'est une photo toute récente, d'un rugby à 7. Le rugby à 7 est apparu très tôt. Il est apparu à la fin du 19e siècle en Écosse. Voilà. Donc tous ces sports sont arrivés à peu près en même temps. Hein. Et sur l'en bas à droite, il y a écrit une affiche, mais je ne veux pas trop en parler, c'est le rugby interdit. Alors tout ça, c'était des rugbys différents. Et puis il y en a un dans l'enceinte du rugby à 15 qui va se distinguer. Il va refuser la règle du rugby à 15 et on verra naître le rugby à 13. Voilà. Mais ça, c'est un peu. Non, c'est à la même époque, à la fin du 19e siècle. Bon, ça, je vous le passe pas, parce que ce sera trop long sinon. Alors, très vite, ce rugby, comment va-t-il se diffuser, ce rugby à 15? Alors, le rugby à 15, bon, ça, c'est une carte. Oula. Je m'approche trop. Donc, je découvre le terrain. c'est une carte de l'Empire britannique à peu près à son apogée. Oui, l'Empire britannique. Et donc, en fait, le rugby va se diffuser d'abord dans l'Empire britannique. Alors, il va se développer dans les dominions, c'est-à-dire l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Canada aussi. Oui. Donc, c'est surtout ces territoires-là où il y avait beaucoup d'anglo-saxons. Avec des collèges, conseils de rugby, etc. Donc ils vont reproduire le même modèle. Et en même temps qu'en Angleterre, ça se fait en même temps. Puis il y a des colonies en rouge, hein, là c'est où les anglo-saxons sont moins nombreux, où le rubis va prendre plus ou moins. Un petit peu de rubis en Inde, un petit peu... Voilà. Enfin, il y en a au Zimbabwe, hein, quelques équipes intéressantes aussi. Bon, il y en a un petit peu ailleurs, mais beaucoup moins que dans les dominions britanniques. En fait, le rubis va aussi se diffuser. Alors ça se voit avec ce tableau-là, vous le voyez, de la première Coupe du Monde en 1987, où vous avez là les équipes qualifiées et sélectionnées. Voilà. Et donc là, dans ce tableau, 11 sont d'origine britannique. On voit bien qu'en 1987 encore, l'élite est incontestablement britannique. Mais il y a aussi des Argentins, il y a aussi des Japonais, il y a aussi des Français. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Alors là, c'est encore un apport anglo-saxon. Parce que les anglo-saxons, ils ont diffusé le rugby dans leur empire, avec leurs armées, etc. Hein, voilà, pour toutes ces populations anglo-saxonnes qui étaient présentes là-bas. Mais également, les Anglais sont de très bons commerçants, de très bons communicants, et de grands marchands, je viens de vous le dire. Et donc, ils vont beaucoup d'anglo-saxons, de britanniques, quand ils vont arriver dans des grands ports de la planète monde, là, eh bien, ils vont essayer de reproduire tout ce qu'ils avaient chez eux. Donc, il leur faut un terrain de golf, il leur faut des terrains de tennis, il leur faut des rivières pour faire de l'aviron, hein, c'était leur sport privilégié à la bourgeoisie et à l'aristocratie britannique, et il leur faut un terrain de rugby. Et donc on va avoir à Buenos Aires, à l'Argentine, à Santiago du Chili, au Japon, voilà, pareil, et en France, Le Havre, Bayonne, La Rochelle, des anglo-saxons présents qui vont faire connaître ces activités-là. Toutes celles que je viens de dire. D'ailleurs, une des plus célèbres qui avait été créée à la fin du 19e, c'est l'aviron bayonnais. Il n'y a pas marqué rugby bayonnais, c'est aviron bayonnais. Et où il y avait toutes ces activités au début avec les anglo-saxons, puis après, des bayonnais sont venus, hein, les basques là. Donc ça s'est ouvert. Voilà. Un des plus, hein, je ne vais pas maratiner, surtout pas que je maratine, mais il y a une petite ville qui est géniale. C'est pas un port. Et pourtant là aussi ça a pris très tôt. C'est un des pionniers du rugby dans le sud-ouest, c'est la ville de Pau. Avec la belle équipe qu'ils ont en ce moment. Hein? Et la ville de Pau a été investie à la fin du 19e siècle. Pas que par les anglo-saxons, mais beaucoup par les anglo-saxons. Il y a jusqu'à 9000 anglo-saxons sur la ville de Pau à la fin du 19e siècle. C'est énorme. Ils ont installé à la Pau le casino, le golf et tout. Et l'équipe de rugby. Voilà. Là, c'était pas un port. C'était parce qu'ils y allaient, parce qu'ils trouvaient que le climat était très sympa. Vous allez me dire, vous, il pleut à Pau, mais pour les Anglais, vous devez être en train d'aller chercher des vagues. Ça m'a toujours surpris, ça. Après, c'est beau, hein, quand vous regardez le pic du Midi Lossau en face, tout va bien. Et alors, il y a un cas particulier, il y a un cas particulier dans cette diffusion, c'est la France. Alors, bien sûr, il y a l'histoire des ports que j'ai racontée. Mais quand même, la France a une histoire énorme dans le rugby, parce qu'il y a d'autres paramètres qui sont rentrés en ligne de compte. Et donc, j'avais fait une carte, il y a pas mal de temps, pour faire des tutoriels. Où on voit, vous avez tous les clubs importants qu'il y avait en France, avec sur la carte l'année où ils ont été créés. Beaucoup ont été créés à la fin du 19e siècle, d'autres au début du 20e siècle. Voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a une très grande domination des clubs de rugby dans le sud, évidemment, et en particulier dans le sud-ouest. Alors, bien sûr, localisation. Et comment ça fait? Comment ça fait pour prospérer pareillement? Alors, c'est d'abord arrivé par les ports, je vous l'ai dit, hein, on les voit avec les flèches bleues. C'est arrivé par les ports. Mais très vite, dans ces élites anglo-saxonnes, ils rencontrent les élites françaises, ils se fréquentent, ils envoient les enfants dans la même université, à Bordeaux, à Paris, à Toulouse, à Lyon. Voilà. Ils se retrouvent dans les universités, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, on crée des équipes de rugby. Parce qu'ils estiment, il y a des équipes de foot, de hand, etc. Mais l'équipe de rugby dans les universités, c'est quasiment emblématique. c'est quasiment emblématique parce que tout le monde peut jouer au rugby. Enfin, tous les gabarits, je dirais. Il ne faut pas être bancal. Bon, voilà. Les universités. Et puis les universités, ça a essaimé ensuite, dépend des universités, ça a essaimé vers plein de petites villes. Et puis des villages. Alors comment c'est parti dans les petites villes? Eh bien ces chefs, ces universitaires, là, en fait, ces gens qui font des études, bah, ils ont pu créer des entreprises. Oui, ou prendre la succession de leurs parents à la tête d'entreprise. Et ils sont revenus dans leur ville, dans leur petite ville, et ils se sont dit, je vais donner un esprit fantastique à mes employés, à mes ouvriers, en créant une équipe d'usine, d'entreprise, qui ensuite deviendra une équipe de la petite ville. Comme à Carmont, au célèbre Carmont, le directeur des mines qui avait créé l'équipe de rugby. Et ainsi de suite, voilà, vous en auriez beaucoup à citer ce qui donne, ça a essaimé dans les petites villes du Sud. On comprend pourquoi. Un petit peu dans la région parisienne, pas beaucoup. Et puis, ça a gagné les villages. Alors là, il y a un autre paramètre qui rentre en ligne de compte pour ce Grand Sud-Ouest. C'est que dans le Grand Sud-Ouest, il y avait beaucoup de républicains. De radicaux socialistes aussi, qui avaient une idée de l'éducation, de faire en sorte que tous les enfants puissent accéder à une bonne éducation, une bonne culture. Et donc ils vont penser que le rugby est un excellent outil pédagogique, un excellent outil de fédération, d'harmonisation des groupes sociaux. Et donc, les instituteurs, dans leurs activités du mercredi après-midi, du jeudi après-midi, ça change, vous savez, comme jeudi, comme moi, et donc, une des activités sportives, deux PS, c'était le rugby. Et le rugby, commencer, et donc les enfants, ils apprennent ça dans les écoles, et ainsi de suite. Et donc, ça gagne du village. Mais il y a autre chose qui a joué. Je n'ai pas de photo là-dessus. Mais autre chose très joli. On a un personnage, un ami d'ailleurs de comment il s'appelle? Philippe Tessier. Je cherchais son partenaire. Philippe Tessier, c'est un neurochirurgien très célèbre à l'époque, ce n'est plus célèbre en Europe, et qui vit dans le Sud-Ouest. Il est né en Ariège, pas très loin, si je ne m'abuse. Et Philippe Tissier est un neurochirurgien et qui se soucie justement de méthodes. Il y a l'idée à l'époque que les jeunes deviennent affreux, terribles. Ils pensent qu'il y a une dégénérescence, on est à la deuxième moitié du 19e siècle, parce qu'il y a une dégénérescence des jeunes qui font n'importe quoi. Des ritournelles qu'on connaît, tout ça, voilà. Et donc, il faut les canaliser, il faut les orienter, il faut les encadrer, il faut les aider. Et Philippe Tessier va faire en sorte que dans toutes les écoles, les lycées, les collèges, etc., on pratique une activité qui n'est pas le rugby à 15, parce qu'il estime quand même que c'est trop violent, mais qui s'appelle la barrette. Et donc, au 19e siècle, on a un développement de la barrette. Il y a encore des collègues de PS qui pratiquent la barrette. Ouais. Et donc c'est un rugby, un peu comme ça existe encore aujourd'hui, quand on joue à un certain âge, qui est un rugby touché. Voilà. Donc tout ça, ça a favorisé le rugby dans cette région. Après, il y a d'autres aspects, je ne peux pas tout raconter, désolé. Et on retrouve cette originalité française avec cette opposition nord-sud et en particulier la surdomination du sud-ouest, bien évidemment. Alors j'ai pris deux cartes ici, une carte normale qui montre la répartition, il y a une dizaine d'années, là, des licenciés en football ici. Donc on voit qu'il y a beaucoup de licenciés en football dans le Grand Ouest, dans le Nord, etc. Et là, c'est les licenciés à la même date en rugby. Avec une cartographie en anamorphose où on extrapole les choses. Et donc, on voit bien l'hyper-domination, en particulier de la Gascogne et de l'Aquitaine. Voilà. On retrouve toujours ça aussi avec les clubs. On voit que les principaux clubs sont également au sud de ce qu'on a appelé le quadrilatère de l'Ovalie. C'est un auteur qui avait lancé cette idée-là, le quadrilatère de l'Ovalie. En fait, il y a deux Ovalies. Là, il y en a une bien centrée sur le sud-ouest et une autre sur la, ce qu'on appelle aujourd'hui la région Rhône-Alpes. Vous savez, au Nord, au Gouin, au Guillon, il y a de grandes pratiques rubistiques, la SM, les pronoms, etc. J'en passe, la voûte et autres, dans toute cette région aussi de la vallée du Rhône. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que les choses évoluent? Est-ce que ça évolue? Oui, ça évolue parce que les campagnes se sont un peu dépeuplées, vous le savez. Les villes ont beaucoup prospéré, les mégapoles, les métropoles surtout, et dont les grandes équipes, aujourd'hui les grandes équipes, celles qui sont dans les divisions en pro, hein, les grandes équipes sont aujourd'hui surtout, il faut beaucoup d'argent, vous le savez, et donc c'est surtout un rugby de grandes villes. Mais il y a quand même une chose qui se distingue, c'est le rugby féminin. Alors, j'ai la date, je n'ai pas la date là, mais ça a quelques années, c'est la part des licenciés féminins. Très intéressante. Elle passe complètement le modèle qu'on avait avant. Il y a une aspiration vers le rugby dans les régions où on n'était pas habitué à voir ça. Donc vous le voyez, en particulier dans le nord, en particulier dans le centre, en fait c'est assez original. Il se passe des choses. Notre rugby change. Alors, il change. Est-ce que les valeurs changent? Alors, quelles sont ces valeurs? J'en parle souvent. Au fondement, une culture rugby avec des valeurs. Alors, on va voir un peu ce que sont ces valeurs. Alors, je parle, hein, pendant le temps que je vous ai dit, à peu près, mais vous inquiétez pas, on parlera après. Mais après, alors, dès les débuts, un projet, je vous l'ai déjà dit, pédagogique et des valeurs. Vous avez ici un article, un extrait de livre de Daniel Herrero, qui est très célèbre, qui est le plus grand auteur sur le rugby, et sur d'autres choses aussi. Et il a mis en bas, enfin, c'est pas le seul, mais c'est très connu. Il y a des personnages qui ont joué un rôle clé, c'est les professeurs et directeurs de l'école de rugby. Ils ont joué vraiment un rôle clé. Je vous l'ai déjà dit, ils avaient un message, ils avaient un objectif pédagogique essentiel à y porter. Alors cet objectif, ça fisole. Alors voilà, le rôle majeur est accordé à Thomas Arnold, qui était dirigeant de l'école de rugby au moment où Ellis était élève, là, et qui mourra, Thomas Arnold, assez jeune, donc il ne pourra pas aller jusqu'au bout de son projet. En attendant, il a lancé, il est mort, je crois, en 41 ou 42, 1800. Hein. Et il avait quand même déjà bien réfléchi aux règles, et il va mettre en place les 30 premières règles en 1848 du rugby. Ça donnera une ligne à suivre. Et donc, lui et d'autres avec lui ont voulu mettre en exergue les valeurs. Alors, quelles valeurs? Les valeurs, faire un homme honnête. Un honnête homme, c'était ça l'idée. Quelqu'un d'équilibré. Quelqu'un d'équilibré. Et quelqu'un de courageux. Hein, parce qu'on est aussi dans l'héritage d'une aristocratie qui était souvent dans les armes. Hein, souvent des militaires. Hein, voilà. Et donc, il y a cette dimension, le respect des autres, en fait, la solidarité. C'est ça les valeurs. Le respect des autres et de soi-même. Ça, c'est systématiquement, on le retrouve dans des tas de textes. Ouais, cette idée-là. Et on le retrouve aussi à la fin de match de rugby. Hein. C'est, je veux dire, il n'y a rien d'équivalent. Puis, il y a un personnage qui va jouer un rôle essentiel. C'est lui qui était aussi l'ami de Philippe Tessier, dont je parlais tout à l'heure. C'est Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin. Lui va jouer un rôle essentiel, puis vous le savez, il va d'abord, c'est un passionné de rugby, il va être l'un des premiers arbitres de rugby à pratiquer, il va être un des fondateurs des grands clubs parisiens avec d'autres là. Il va être à l'origine, on va reparler du bouclier de Brennus qui récompensera le vainqueur du championnat de France de l'année. Et vous le savez, il va également penser à être à l'origine de la recréation des Jeux Olympiques. Voilà. Et il sera président du CIO pendant quelques années. Oui. Donc Pierre de Coubertin, pour qui le souci premier, je l'ai écrit, au-delà de toutes les valeurs que j'ai évoquées, qui voulez promouvoir, c'est l'amateurisme. Et on est dans cette logique du rugby anglais et celui de Pierre de Coubertin, où l'amateurisme doit rester la règle. On n'a pas, les valeurs ne seraient pas conciliables à leurs yeux avec des affaires de monétisation ou de salarisation. C'est comme ça qu'ils le font. Voilà. Les choses ont changé. Alors, une équipe de rugby à 15, bon, je pourrais aller un peu plus vite, mais quand même, c'est un pédagogue, là, Pociello, et qui a théorisé en quoi, là, ça c'est dans les années 50, il a théorisé sur quoi une équipe de rugby serait le microcosme, si vous voulez, de la société, et donc favoriser l'harmonie d'un groupe de 15 à 20 joueurs, bien sûr, hein, faut pas oublier les autres, favoriser l'harmonie, faire en sorte que cette équipe s'entende bien, présente ses valeurs de solidarité entre elles, ce courage cumulé, etc. Et ça passe par 15 joueurs. Et ces 15 joueurs sont différents et complémentaires. Et leur complémentarité est à l'image de la société. Je ne vais pas reprendre tout ce que j'avais écrit là, mais par exemple, force et puissance de la première ligne. Voilà. Deux costauds piliers encadrant un talonneur vif et puissant aussi. Bon, ça, je me rappelle à l'époque, on disait les gros. Les gros. Désolé pour ceux qui étaient des gros, mais on disait les gros. Aujourd'hui, on n'est plus les gros, hein. Parce qu'il y en a, ils courent vite, là. Oui. Et donc, je me rappelle, à une époque, le pilier, il fallait l'attendre. Hein. Il arrive pas tout de suite dans le monde. Hein. Bon. Donc là, ça avait changé. Oui, il donnait autre chose.
Il y avait la châtaigne aussi.
Voilà. Alors, je vais prendre autre chose. Hein. La charnière faisant le lien entre avant et arrière, vivacité, adresse, rapidité, vista du jeu de deux joueurs de petits gabarits. L'un au contact avec les avants, l'autre assurant l'ouverture à la main ou au pied. Bon, les joueurs de petit gabarit, c'est vrai qu'on a encore des joueurs de petit gabarit en demi d'ouverture. Mais il y en a aussi dans certaines de ces équipes-là qui sont une moyenne de 1m80 et qui font 90 kg. Hein. Donc les choses évoluent. Et là je suis dans les pros.
Ils sont bien nourris.
Ah, ils sont bien nourris aussi. Voilà, bon. Donc 15 personnes différentes qui peuvent laisser espérer à une société qui, elle aussi, serait harmonieuse. Et puis, un fond commun, mais toujours dans la diversité. Alors, j'ai voulu montrer, bon, ça, c'est pas très original dans le rugby, mais dans le football ou les autres sports, on a des nations. Le rugby, c'est... on a des équipes nationales, et ces équipes nationales, oui, font preuve de certain patriotisme. Certains moments patriotiques. Et donc, dès le début, on voit que les îles britanniques se sont distinguées parce qu'on n'a pas le Royaume-Uni, on a les quatre nations britanniques qui tenaient à avoir leur propre équipe. Et ça n'a pas changé. L'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles et l'Angleterre. L'Irlande, alors, au XIXe siècle, toute l'Irlande était colonisée par les Anglais. Hein. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que l'Irlande a été divisée en deux parties. Mais aujourd'hui, l'équipe d'Irlande, ce n'est pas deux équipes, hein, c'est une équipe pour toute l'île. Sachant pourtant qu'il y a des différences idéologiques et religieuses entre le Nord et le Sud. Hein. C'est toute l'île qui est dans la même... Donc, vous voyez, l'esprit national est passé au-dessus de l'esprit, je dirais, d'Attique. C'est un peu la même chose avec un esprit... national qui s'est développé progressivement, j'y reviendrai, avec les quatre nations du Sud, hein. C'est le championnat hein, qu'on a, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Argentine. Les identités, la diversité, ça passe par des identités aussi. Alors, plus que dans le football, on n'a pas toutes ces nuances d'apparence, etc. Et vous le savez, les joueurs néo-zélandais nous gratifient tout le temps de leur haka, de bonus ou naissant. Ils ne sont pas les seuls, hein. Les autres populations de polynésiennes, c'est pareil. Les Tonga, les Samoa, c'est la même chose. Voilà. Et bien sûr, les tatouages qui sont devenus très très à la mode. Maintenant, on a plein de rugbymen français qui portent des tatouages à la mode maori. Et puis, il y a eu une autre diversité qui est apparue avec Max Boisini, le président du Stade français, qui au début des années 2000 a eu l'idée, il trouvait que ça patinait, il n'y avait pas grand monde dans le stade, voilà, il fallait attirer
son stade.
Et bien oui, et lui qui était patron d'une entreprise médiatique, hein, ça s'y connaissait un peu, et donc il a lancé des shows. Des shows, d'abord il a habillé les joueurs en rose, ce qui a posé quelques petits problèmes de compréhension au début. Mais les pagelles, les poteaux en rose aussi, hein, voilà, et que le ballon n'est pas rose. Et donc, il a ça, puis ensuite, il y a des spectacles à l'avant-image, des chanteurs, des vedettes, ici et là. Voilà. Et effectivement, ça a très très bien marché. Il a rempli son stade, et le Stade français, on connaît quand même une belle réussite depuis les années 2000, même s'il y a des hauts et des bas. En tout cas, ce sont nos ennemis. Et puis vous avez dans les identités les styles de jeu. Ça aussi, ça fait partie des identités. On me dirait en foot c'est pareil, hein, on a le foot danois et le foot italien, c'est pas pareil. Hein. Bon, mais là c'est un peu pareil, on a des styles de jeu, mais même à l'échelon français, régional, on avait des styles de jeu. Et là par exemple, comment il s'appelle le philosophe Michel Serres, qui est à Genève, qui a joué au rugby. Était un enthousiaste du SUA, de l'équipe d'Agen, et l'équipe d'Agen qui dans les années 1980 a subi à plusieurs reprises les affrontements avec la grande équipe de Béziers, qui était 9 fois champion de France à cette époque-là, et donc, il regrettait un peu, et alors les militaires Rogici disaient qu'ils jouaient comme des taureaux, hein, ou comme les Romains, bêtes et obéissants, et faisant la tortue. Et ceux d'Agen, au contraire, c'est les gazelles, voilà, et les appeler aussi eux, là, les Gaulois, capables d'originalité, d'individualité forte, etc. Voilà, ça c'est Michel Serres, lui aussi très fort en image. Voilà, et puis on a en France, excusez-moi, le rouge là, c'est pas une grande idée, mais on a quand même en France une originalité, c'est qu'aujourd'hui, bon, on est dans le Volvestre, peut-être vous allez me dire, il y a encore des réminiscences de tout ça, mais peut-être pas. On ne l'a pas partout, cette dimension-là, il y a une dimension de localisme très très forte. Un localisme très fort. Un rubis de clocher, vous vous rappelez de ça, vous connaissez l'expression, elle est même restée encore, hein, rubis de clocher. Et je présume qu'à Montesquieu, on joue en rubis de clocher. Voilà. Et donc, voilà, on a des images pour illustrer ce rubis de clocher, ou ce rubis de petite ville comme Clermont, et dans lesquelles les fratries, souvent, des fois, dans les équipes, il y avait toute la famille pratiquement qui arrivait, là, hein. On n'allait pas prendre un seul, non, c'est la famille qui est arrivée. Alors, il y en a le célèbre, hein, il y a un site, hein, les caméras pro, on n'en a plus. Hein. Et puis surtout, là, les Spanghero, les frères Spanghero, les fratries, hein, qui, voilà. Donc là, c'était ça, hein, toute l'identité. Voilà, alors, le rugby, vecteur de cohésion culturelle et citoyenne. Alors, j'ai pris trois images pour illustrer cette dimension culturelle citoyenne. Le bouclier de Brennus. Alors, le bouclier de Brennus, c'est un acte de foi sportif, c'est un acte de foi historique, c'est un acte de foi patriotique. Alors, il faut regarder dans le détail, c'est un bouclier d'abord. Il est fabriqué par un monsieur qui s'appelle Brennus. C'est son nom. Enfin, il ne s'appelle pas que Brennus, hein. C'est un de ses prénoms plutôt. Brennus, Ambrionix, Pognier. Bon, ceci étant, on a retenu toujours Brennus. On est à la fin du 19e siècle. Le 19e siècle, un peu d'histoire, c'est on retrouve les Gaulois.
on s'enthousiasme pour les Gaulois, le passé gaulois, etc., etc. On s'enthousiasme pour Vercingétorix, etc. On s'enthousiasme pour Brennus qui avait cassé la figure aux Romains en 350 avant Jésus-Christ. Voilà, parce que ça, c'est pour forger l'esprit national contre les Allemands qui nous attendent depuis un petit moment. Donc c'est ça. Donc c'est une dimension historique, mythique. Mythique, tout n'est pas tout vrai. Bon. Et donc c'est un bouclier pour se défendre, pour etc. Avec des feuilles de laurier qui rappellent le laurier, c'est la victoire, hein. Et puis au milieu, c'est un peu compliqué, il y a une petite banderole là, et deux anneaux, je ne sais pas si vous le voyez. Sur la banderole, il y a marqué en latin Ludus pro patria, des jeux pour la patrie. C'est envoyé, déposé, c'est signé Pierre, comment s'appelle déjà De Coubertin. Voilà, c'est signé Pierre De Coubertin qui était passionné par tout ça. Et puis il y a deux anneaux. Alors les deux anneaux, en fait, étaient à l'origine, qui peuvent l'être parfois, rouge et bleu. Alors, deux anneaux rouges et bleus, ils sont, parce que ils symbolisent les deux grands clubs de la capitale, le Racing et le Stade Français. Et donc, ils se sont unis pour arriver à monter tout ça. Et donc, ces anneaux signifient l'union, signifient le respect, les valeurs mystiques. Mais ces anneaux, vous connaissez leur destin, hein. Pierre de Coubertin s'est dit, c'est pas mal les anneaux. Je vais leur ressortir, mais sous une autre forme. Ce sera les anneaux olympiques. Donc il y a une filiation. Et bon, c'est pas mal. Et rouge-bleu, c'était super. C'était couleur de la France. Quoi. On est dans cette dimension. Oui. Brennus, qui n'était pas seulement un ciseleur, etc. Hein. C'était un rubis. Hein. Voilà. Pierre Coubertin et Brennus, c'était des Rubiens. Brennus a été le fondateur d'un grand club parisien qui a ensuite disparu. Oui. Et il a disputé avec son club la finale du championnat de France au début, etc. Hein. Il a été président par la suite de la fédération, c'est pas quiconque. Hein. Et puis arrive un crash dans les valeurs, c'est bien embêtant. Est-ce que je suis bon dans le timing? Moi, c'est une demi-heure, là. Ça va? Oui, ça fait. Je coupe aussi. Bon, quand même, ça, c'est trop dommage si je n'en parle pas. Ça, c'est un schisme. Pour moi, pour Dan Valla, c'est une rupture, c'est une occasion. En 1895, en Angleterre, il y a des joueurs du nord de l'Angleterre, où il y a des usines, des mines, etc., qui n'ont pas les moyens. Et ils voudraient que leur déplacement en train, soit défrayé. Ils voudraient que leur équipement soit un peu pris en charge, etc. Ils voudraient de l'aide un peu financière. Et la fédération anglaise, à cheval sur ses positions doctrinaires d'amateurisme, a refusé. Et donc, il y a eu rupture. Et on a un certain nombre de clubs qui ont quitté la fédération britannique, oui, et qui, voilà. Et donc, vous avez sur cette carte, et en vert, les clubs, alors je ne sais pas quelle année, 2014-2015, en vert, c'est les plus grands clubs, hein, à 15 et à 13. Et donc, en vert, c'est les grands clubs à 13, et en rouge, c'est les grands clubs à 15, et en violet aussi. Oui. Donc on voit bien qu'il y a une opposition, qui n'est pas une opposition, qui est une opposition géographique. Regardez bien, j'y tiens pour les oppositions géographiques, vous avez compris pourquoi. Donc les oppositions géographiques me plaisent bien, et pourquoi? Parce que ici, dans le bassin londonien, bah, c'est l'Angleterre du commerce, de l'agriculture, etc., des grandes universités, des grandes. Ouais. Là-haut, là, c'est l'Angleterre des grandes industries de l'époque métallurgique, minière, etc. Donc, vous voyez, il y a une opposition qui est une opposition spatiale, mais qui est une opposition sociale en réalité. Et ça va faire école. Sans faire école, dans notre région, il y a deux territoires aussi où on va retrouver la même chose. Il y en a un, c'est l'Australie. Alors l'Australie, alors là c'est l'inverse. Envers, j'ai fait les équipes de 15, les grandes équipes de 15, et en rouge, les équipes de 13. Vous voyez que là aussi, il y a une bipolarisation spatiale en Australie. Il y a la zone du 13 et la zone du 15. Et là, pour les mêmes raisons, hein, on est sur un divorce conceptuel entre amateurisme et un début de professionnalisation. Et donc, vous avez compris, ici c'est l'Australie de Melbourne, c'est l'Australie bourgeoise, voilà. Et là, ici, c'est l'Australie de Brisbane, de Sydney, c'est l'industrie, c'est les villes où arrivent les immigrants, les pauvres, les ouvriers, etc. On retrouve ces dimensions sociales. Au résultat, sachez quand même que le 13 en Australie aujourd'hui est beaucoup plus prestigieux que le 15. Avec son champion du monde à 13 et tout, là, il n'y a aucun problème. Le nombre de licenciés à 13 en Australie, c'est pratiquement 4 fois le 15. On ne sait pas tout ça, hein, je crois. Mais bon, quand même. Et en France, on a la même chose. Le 13 arrive, il est officialisé en France en 1934, et le 13 se développe très 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 vite, hein, 1934, 1940, il y a déjà plus de clubs à 13 qu'à 15. Ça a été très rapide. Très rapide le succès du 13, pour plusieurs raisons. Il n'y a pas que l'aspect monétaire, il y a aussi l'aspect du jeu. Le jeu, parce qu'au début, le 15, il était un peu lourdeau, hein. Il était lourd. Et il y avait beaucoup de castagnes. Le 13 est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide.
Oui, ben, oui. Pardon.
Je peux, hein. Bon. Et voilà, d'accord. Donc il y avait ces nuances-là. Je comprends pas ça. Et donc, aujourd'hui, là, c'est le point. Alors, le 13 aujourd'hui a quasiment disparu du territoire français. Plus beaucoup. Mais il y a du 13 féminin, du 13 masculin, il y en a. Hein. Peut-être parmi vous, il y en a qui connaissent, ce serait bien de le faire savoir. Mais le 13, donc, s'est réduit comme peau de chagrin pour deux raisons. D'abord, les 15istes ont été des salauds. Au moment du régime de Vichy, eh bien, certains grands dirigeants du 15, comme on montra, étaient pétainistes. Et voilà, ils avaient des copains dans le ministère. Ils ont dit, alors tu nous fais un truc, là, on supprime le 13. Surtout que le 13, c'était socialement pas la même couche, et politiquement, c'était pas non plus les mêmes idées. Non, le 13 a été sabré, il a été interdit. Tous les avoirs du 13 ont dû être donnés au 15. Et le 13 s'est reconstitué après la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est assez bien possible. Et puis, très vite, est arrivé dans les années 50-60 la télévision, avec les grands journalistes comme Couvert. Et là, ils avaient mis l'accent sur le 15. Le 13. Il reste quand même deux grandes équipes, mais comme il y en a pas assez, les deux grandes équipes aujourd'hui, c'est les Dragons de Perpignan et l'Olympique Toulousain, qui sont en première division, mais pas première division française, ils sont en première division européenne. Ça se joue maintenant à l'échelon européen, c'est-à-dire avec les deux clubs français et les autres, ils sont anglais. Voilà. Ou gallois. Ça va? Je n'ai pas perdu.
C'est bien.
Aujourd'hui, la nouvelle planète Ovalie à l'image de la World Rugby sublimée par la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Voyons-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le rugby à 15 et à 7 en internationalisation, je vais aller vite là-dessus, vous connaissez. Là, depuis les années 80, du 20e siècle, au 21e, depuis les années 80, toutes les fédérations ont décidé de favoriser des rencontres, et donc de divers championnats internationaux se sont créés, vous le savez. Des championnats entre nations, comme le tournoi Destination, qui a été le premier tournoi international à être créé, au début du XXe siècle, d'où la France, après 1934, a été chassée, parce qu'ils considéraient qu'on était trop violent. Bon, il y avait eu un mort pendant une rencontre. Ils sont pas larges, les Anglais. Et donc, la France a été exclue. Du coup, la France n'est revenue au tournoi des nations qu'à s'agir après la Seconde Guerre mondiale. Puis on a fait rentrer l'Italie il y a une vingtaine d'années, là, peut-être des années. Et puis, on est passé à 6 nations. Ouais. Entre-temps, la France avait essayé de créer son propre championnat. Les Anglais nous emmerdent, on va se faire le nôtre. Donc on s'était mis d'accord avec les Allemands pour créer notre propre championnat qui s'appelle la FIRA. ça nous parle.
Voilà. Et donc, il y en a d'autres, comme ça, rugby, championship, entre les quatre grandes équipes du Sud, vous avez entendu, le Nouvelle-Zélande est venu nous dire bonjour après avoir gagné... Non, c'est pas eux qui ont gagné le championship en mois d'octobre, c'est les Sud-Africains qui ont gagné. Et vous le savez, au mois de novembre, les All Blacks, j'ai dit une bêtise, les Néo-Zélandais sont venus voir si on tenait le coup. Et puis ils ont battu tout le monde, ils ont écrasé les Gabonais. Les Sud-Africains sont passés par là. Donc ça, c'est le rugby championship. Puis il y a le super rugby. Alors là, c'est un peu l'équivalent de notre champion cup pour la Coupe d'Europe, hein, ou du challenge européen. Hein. C'est une rencontre là, d'équipe. Hein, équipe. Et donc là, dans le super rugby, 18 franchises, il y a aussi les Japonais. Ouais. Il y a plein d'Argentins, mais il y a les Japonais. Etc. Il y en a beaucoup, hein, de rencontres, sans parler des test matchs. Donc le rugby s'est bien internationalisé. Et évidemment, le moment majeur, c'est la Coupe du monde de rugby masculin, le rendez-vous majeur, une création récente, 59 ans après le football. Hein. On a pris du retard, je vous l'ai déjà dit. Alors la Coupe du monde avec la première en 1987, oui, avec les Français qui ont poussé à la roue là-dessus, ça va passer, hein, voilà. Et qui cherchaient à créer ça depuis longtemps. Hein, ça met du temps avant que les Anglais, les Anglo-Saxons acceptent. Hein. Mais la pression française a été décisive. Voilà. Ah oui, avec un trophée qui est remis, hein, vous le savez, où on écrit dessus, comme pour le bouclier bonus, le vainqueur de la Coupe du Monde. Et c'est ce bouclier, ce trophée, ça s'appelle le trophée. Ouais, peace. Oui, vous savez tout. Et avec certains qui gagnent, les dernières dates, c'est eux. C'est eux. C'est encore eux. Hein. Ah oui, là. Alors, oui, l'arbitre cette fois-ci, et l'arbitre en 95 aussi. Et ça fait deux fois.
Ça fait beaucoup.
Et Colby. Alors, comme du monde, toujours en rêve pour la France. C'est ça le truc. On était presque. En 2023, on a cru qu'on allait y arriver, mais l'arbitre nous a fait des sans-prix. Et puis, il y a un ami bien qui a escalé notre petit auto. Ça fait beaucoup. Bon, voilà. Bon, mais il n'y a pas de Coupe du Monde pour l'honneur, ça n'existe pas. Et on l'a frôlé en 2011. Alors, c'est pas 9 à 8, c'est 8 à 7. Mais on a frôlé, là. On a failli avoir le Nouvelle-Zélande, mais on n'est pas arrivé. Bon, j'ai pas le temps de voir les joueurs, là, parce qu'il y en a de mémorables, hein, bien sûr. Je passerai beaucoup trop de temps, mais vous en reconnaissez. William, là, Servat qui vient. Ah, je sais pas Servat, si. Jack Zarski, lui, comment il s'appelle? Eh bien, lui sur toi, ma femme, trop magnifique. Ah, ouais, ça, il me gonfle aussi. Et donc voilà, donc trois fois. Une mondialisation, donc on peut dire qu'il y a une mondialisation en cours, oui, avec quelques permanences toutefois. Mais encore une fois, alors la mondialisation, la World Rugby là, qui organise maintenant le rugby, qui a changé, qui a remplacé l'IRB qui existait avant, la World Rugby bien, gère tout ce qui est rugby à 7, tout ce qui est rugby à 15, toutes les compétitions dans le monde. Hein. Donc il y a vraiment une unification de la gestion du rugby mondial. Voilà. Et tout ça s'est structuré autour d'ensembles géographiques, hein, puisqu'il y a pratiquement 134 fédérations nationales qui existent, voilà, dans les beaucoup. Et tous les pays qui sont bien colorés, ce sont des pays qui, peu ou prou, présentent des équipes nationales à des compétitions. Même la Russie, hein, ça peut surprendre, avant bien sûr qu'il y ait Poutine, qu'il soit exclu d'un certain nombre de choses. Mais bon, voilà, après ils n'ont jamais été. Enfin, je signale quand même qu'on a deux ou trois joueurs russes qui jouent dans notre top 14. Ouais. Et puis, ils étaient. C'est une équipe du deuxième challenge européen. Et l'année dernière. Non, pas l'année. Ça fait un moment.
Quel match, hein.
La Géorgie avait battu la Russie. Oui. Je ne vous dis pas. Géorgie qui bat la Russie.
Pour une fois. Pour une fois.
Oui, non, ça leur a fait du bien. Hein. Bon, je ne vous explique pas. On fait un peu de géopolitique. La mondialisation, ça se voit peut-être par le nombre de licenciés. On est très très loin du football.
Oui, on s'en fout, je vous le dis. 3,5 millions, 4 millions de licenciés, avec certains pays qui sont... alors, les chiffres, ils varient et tout. On n'est pas dans ça. Afrique du Sud, numéro 1. D'accord. L'Angleterre, numéro 2. OK. L'Australie, à 15. Pas mal, quand même. Oui. La France, 4e. La Nouvelle-Zélande. Alors, ça a changé les chiffres, bien sûr. La Nouvelle-Zélande, qui suit. Les États-Unis. Ah, tiens, les États-Unis qui arrivent. Ils reviennent, les États-Unis reviennent. Ouais. Et puis derrière, les Fidji. Le Kenya, tiens, le Kenya. Mais oui, bien sûr. L'Argentine, on le sait. La Chine, tiens, qui arrive. Ah oui. Ah, mais ils essayent en ce moment. Alors, ils ont même demandé à organiser une des prochaines Coupes du Monde.
Très bien.
Oui, voilà. Etc., etc. Donc, on voit quand même, dans ce nombre de licenciés, même s'il n'y a rien de révolutionnaire, qu'il y a des évolutions en cours. Des évolutions en cours. Et en bleu, les qualifiés pour la 10e Coupe du Monde après les qualifications et sélections, la bipolarisation géographique toujours. Donc, vous voyez, il y a des Algériens, des Nigériens, des Camerounais. Il y avait de nouveaux pays qui s'étaient disputés des matchs de qualification. Hein. On voit que ça s'élargit un peu. Bon, ils n'ont pas beaucoup de licenciés. Sinon, on retrouve toujours les mêmes, bien évidemment. Voilà. Quelle place pour le rugby français au sein de la planète Ovalie? Est-ce qu'on est bien placé? Mais on est une des premières nations, bon, on l'a vu, des licenciés, on vient de le voir, on est quatrième, cinquième, quatrième, des licenciés féminines, bon, le chiffre commence à être de sens, des titres, 23 fois champion du tournoi des 5 ou 6 nations, sur 76 ans, bon, c'est correct, dont 9 grands chelems, oui, plusieurs fois champion de la CUP, hein, 1995, le stade toulousain, non, ça a été créé en 1995. Saint-Toulousain a gagné 6 fois, Toulon 3 fois, La Rochelle 2 fois, Brive et l'UBB 1 fois. Bon, c'est déjà pas mal. Les Jeux Olympiques en 2024, un des meilleurs joueurs au monde, Antoine Dupont, des membres honorés au Temple de la Renommée à Ruby. À Ruby, dans la ville, ils ont créé un grand bâtiment, une exposition, etc., avec des objets, voilà. Fétichisme rugbyistique, et tous les ans ils honorent un certain nombre de joueurs comme étant les plus grands joueurs ou dirigeants du rugby mondial. Et donc j'avais calculé, on en a 13 sur 30 ans, il y a 13 Français qui ont été honorés. Ah, donc, c'était pour illustrer, non, je dis une bêtise, c'est une connerie ça, 15 sur 53. Ouais, ça fait pas beaucoup. Hein. Un classement mondial pour les hommes, là, on était, j'ai fait ça toujours, c'était en 5e, là, dans le classement. 4e pour les femmes. Hein. Et un top 14 championnat le plus attractif, avec plus de 16 000 spectateurs en moyenne par match. Vous vous en doutez, vous le savez. Le Cévennes, alors là, une des grandes nouveautés, je suis dans cette mondialisation qui avance, une des grandes nouveautés, c'est bien sûr le CEF qui est revenu. À la tête des affiches et des médias, vecteur de la planétarisation du rugby. C'est pour ça qu'on voyait des pays auxquels on n'était pas attendu, parce que beaucoup se sont lancés dans le 7 aussi. Hein. Et parmi les 7, vous avez des équipes qui pourraient vous surprendre, comme Hong Kong. Hong Kong est une grande équipe à 7, voilà. Ou le Kenya, dont je parlais tout à l'heure. Donc on voit les équipes sélectionnées pour le 7, on voit bien qu'il y a du nouveau, les Brésiliens en particulier, hein, qu'on ne les a pas du tout à 15. Oui. Donc il y a un élargissement qui se fait. Et le rugby à 15 féminin, bien sûr, là c'est la grande nouveauté de nos dernières décennies, un apport qualitatif. Hein, qualitatif. J'ai mis qualitatif. Parce que je trouve que le rugby féminin, ben, il est chouette à voir. Il est chouette à voir. Il y a de beaux jeux. Et ça fait plaisir. Parce qu'il n'y a pas la même histoire, il n'y a pas les mêmes antécédents, il n'y a pas le même nombre, voilà. Donc, pour ça, j'ai mis qualitatif. Je vois les mecs là, ils font la tête. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, vous avez une de nos bonnes joueuses, là, Bourdon, avec Pauline, c'est ça. Voilà. Un nouveau rugby seréné. C'est ma avant-dernière grosse partie, si vous voulez. Un nouveau rugby serait né, un hyper rugby. Donc je dis de qui c'est Xavier Lacasse qui a dit ça dans un ouvrage tout récent, là, ou dans des interviews. Pour moi, c'est celui qui... Alors, si vous cherchez la documentation, il avait fait un petit bouquin, Xavier Lacasse, hein, qui était de très bonne qualité sur l'histoire de... Alors là, j'ai pris comme illustration un stade. Lors des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde au Japon. Voilà, donc on a désormais des grands stades, comme pour le football. En Australie, il y en a un, Sydney, qui fait 100 et quelques, plus de 100 000 places. Voilà, Twickenham, oula, qu'est-ce que j'ai dit ? Twickenham, c'est plus de 80 000. Enfin, voilà, le stade de France, on est pas loin de 80 000 aussi. Voilà, et donc il y a une course au grand stade. Hein. Les courses au grand stade, ça fait partie de cet hyper rugby. Évidemment, cet hyper rugby est marqué par la volée financière et médiatique du rugby pro. Attention, on va parler que du pro, hein, c'est-à-dire top 14 et pro D2. Voilà, bien évidemment. Alors là, vous avez les derniers budgets, hein. Vous voyez que le seul... Alors, c'est pas tout à fait, mais c'est presque le classement. Hein. Les premiers et les derniers, ça correspond au classement qu'on a aujourd'hui. Dans la tête, on a le seul Toulousain avec plus de 55.
C'est pas mal, mon tour, ils ont des sous quand même.
Ils en ont plus qu'à un moment donné. Bon, mais ça suffit pas, hein, ça suffit pas. Enfin voilà, donc on retrouve des budgets considérables. En 20 ans, ça a été multiplié par 10. Là, hein. En 20 ans, ça a été multiplié par 10. Hein. Donc là, on a des sommes considérables, avec des mécènes, avec des entreprises qui s'investissent. À Toulouse, une association, là, c'est très exceptionnel à Toulouse, ça nous est. Enfin, voilà, on a des ventes de produits dérivés, on a... Enfin, et puis, bien sûr, les droits télé. Et tout cet argent qui arrive est géré, vous le savez, par la Ligue nationale de rugby, hein, qui vient d'élire la semaine, je crois, son nouveau président. Moi, je suis très content, c'est un grand montagnard, un type fabuleux. Comment il s'appelle? Robert, je crois que c'est Robert. Et il a un sacré pédigré. Et vous avez bien sûr, alors, un Eldorado français, j'ai repris ça, je ne sais plus dans quel petit article, ça m'a convenu. Un Eldorado français, le salaire moyen d'un rugbyman professionnel en France, atteint 259 000 euros brut par an, soit un peu plus de 21 000 euros mensuels. Ah oui, c'est bien. Ce chiffre est 7 fois supérieur à celui des joueurs de Pro D2, et 33% plus élevé, je ne vous gêne pas, que celui de leur premier du terrain. Ou du championnat japonais où seuls les joueurs étrangers bénéficient de salaire élevé. Au Japon, ils veulent faire venir les. Oui, pour attirer le monde, hein, voilà, c'est le marché. Voilà, une trentaine de joueurs gagnent plus de 480 000 euros, dont le plus élevé, à la date que j'arrive, c'est déjà l'hiver, avec 850 000 euros. Et après, il y a les pubs, etc. Hein, voilà. Donc, il y a d'autres. Hein. Voilà. Un pays s'est accompagné du coup par un mercenariat, un mercato et un star system. Je ne vais pas rester planté là-dessus, hein, mais c'est là où on voit qu'on change de planète, de rugby en tout cas, hein, dans ce monde pro. Vous le savez, le mercenariat, c'est tous ces joueurs étrangers qui cherchent de bons revenus, hein, voilà, et qui cherchent à être employés. Et évidemment, le marché français est le plus attractif. Hein. Avec ce que l'on vient de voir précédemment, et dont on a des joueurs, on a deux ou trois gros contingents. Les gros contingents, c'est les Néo-Zélandais, les Fidji, l'Afrique du Sud, ouais, ça c'est des gros contingents. Mais après, dans le championnat français, vous avez à peu près 25 nationalités qui sont représentées. Hein, donc voilà, très très attractif, mais c'est vrai, à d'autres endroits, l'Australie et la Nouvelle-Zélande attirent des îles du monde pacifique, enfin voilà, et vous avez en couleur tous les états qui fournissent des contingents de rugbymen. L'impact de la financiarisation et de la médiatisation, les effets du toujours plus de joueurs de qualité, attirer les joueurs, flux migratoires, sponsoring, améliorer... Ah oui, j'ai écrit Mercato tout à l'heure, vous savez que là désormais il y a un Boxer Day, comme pour le football, et vous l'avez le 28-29 décembre, je crois. Si jamais il y en a qui sont intéressés, hein, vous pouvez prétendre à vous engager.
Voilà. Et donc, améliorer les performances physiques, quid du devenir de l'harmonie sociale, de la fidélité, de la solidarité, un risque de starification. Voilà. J'étais sur les valeurs. Je me pose la question. Vous y répondrez. Et puis à côté, toutefois, ne pas confondre envers, je suis envers, l'espérance, pour que ça ne change pas trop, un sport professionnel et un sport amateur. Un sport spectacle et sport pédagogique de développement personnel. C'est un peu sans aller cette dualité aujourd'hui. Voilà. Et puis, c'est un sport d'amateur juste pour le plaisir, évidemment. Tout est bon. Alors, évidemment, du sport de contact et d'évitement, oui, c'est comme ça, je le vois. On est passé d'un sport de contact tout le temps et d'évitement tout le temps à un rugby d'affrontement marqué par la vitesse, la puissance et des contacts plus durs, plus violents, dont celui-ci là qui était volontaire contre Dupont lors de la dernière Coupe du Monde. Oui, c'est un attentat. Et voilà. Ça existe encore. Alors évidemment, des risques accrus, et vous le savez, il y a. Ça, c'est un grand débat qui existe depuis la fin des années 2010. Il y a un grand débat. Il y en a deux qui ont largement essayé de médiatiser, de faire savoir qu'il y avait une grande problématique de santé dans le rugby. C'est Philippe, non, c'est pas Philippe, c'est Jean Chazal, un grand neuropsychiatre, le plus grand, qui a écrit des ouvrages, des émissions, etc. Et un joueur qui s'est beaucoup avancé, c'est Olivier Mann, super joueur de plus de 90 sélections, un type fantastique, Olivier Mann, et qui ont fait cause commune pour faire en sorte que la LNR et la Fédé et le monde de rugby mettent en place des nouvelles des règles qui permettront d'éviter des risques trop grands. Alors, des risques trop grands, bon, les plaquages sont responsables de beaucoup de plus de 50% des accidents. Bon, se casser une jambe, une épaule, c'est quand même pas la mort. Par contre, les commotions cérébrales, ça, c'est ce qu'il y a de plus. Plus grave à ce moment dans le rugby comme dans le football américain, qui, dans le football américain, a soulevé cette question bien avant le rugby à rugby français. Et voilà, donc il y a des questions. La commotion cérébrale, ils sont en train de se rendre compte que. Là, j'ai lu un article là-dessus, là, tout récemment, là, sur le fait qu'il y a la première commotion et la deuxième commotion dans un laps de temps assez court. La deuxième commotion dans un laps de temps court, je ne vous raconte pas. Voilà. Donc, on a eu le moment clé, ça a été l'année 2017, l'année 2018, où il y a eu quatre jeunes qui sont morts sur le terrain. Donc, ça. Mais oui, c'était aussi. Oui, oui, non, mais en montagne aussi, etc. Mais ça fait partie des problématiques. Et il faut les aborder. Alors, celle-ci, le dopage, etc., il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai un copain qui est un grand entraîneur, il me dit non, on n'en parle jamais. Voilà.
C'est le fond.
C'est le corps. Ah, oui. À une époque, c'était le corbière, oui. À une époque, le vin était. Voilà. Mais là, je ne sais pas, peut-être. Il y a des corticoïdes, des machins, je ne sais pas. Toutes les musculatures sont naturelles, bien sûr. Et donc, bon, ça, c'était les côtés un peu dévalorisants. Et puis, est-ce que c'est comme ça? Ben non. Il y en a qui réalisent et. Le rugby est pareil de grande valeur. Il y avait Florian Ville, je ne crois même plus, là, il est devenu président de la France, qui avait attaqué la porte sur le fait que les valeurs se perdaient. Bon, je ne sais pas si avec lui, ça s'est bien reconsolidé. Et puis il y avait cette affiche, vous vous rappelez peut-être, c'était pour la Coupe du Monde en France. Avec ici, c'était une affiche où on mettait en exergue toutes les valeurs du rugby. Alors, des valeurs célébrées par beaucoup de publicités déjà, par beaucoup d'entreprises qui en ont fait presque une volonté de
de business. Il y a le business, mais pour des entreprises, c'est aussi une façon de mobiliser leurs employés. Ruban. Voilà. Fait servir la même chose. Des valeurs retrouvées, avec des héros clamant la beauté du jeu, l'esprit chevaleresque, guerrier, fraternel. Alors il y a eu une époque que tout le monde, beaucoup d'entre vous le connaissent, hein, Roger Couder, voilà, il y a eu un Baladijon aussi, j'aurais pu mettre un Baladijon et tout son vocabulaire fleuri, hein, à cabane des tombées sur le ciel, le cocheur entre le maïs, etc. Il y a plein de choses.
Sur le ciel.
Hein?
La cabane est tombée sur le chien.
Oui, la cabane est tombée sur le chien. Bon, par exemple, c'est un truc assez célèbre. C'était pas Coudert, hein, c'était pas là. Ouais. Et puis Daniel Héron, bien sûr, que lui, alors il faut aller écouter ses podcasts sur des émissions philosophiques, souvent, dans lesquelles il est interdit, où il est toujours d'une volubilité très séduisante. Voilà, voilà. Le rubis, bah, il est porteur aussi de valeurs républicaines. Ça a été proclamé dès la fin du 19e siècle, hein, la liberté, l'égalité, la fraternité sont aussi reconnues comme des valeurs rubis. Hein. Et donc on en a, ça rejoint un peu la préoccupation qu'avait Pierre de Coubertin en 1900. Le rubis, ça c'est un point sur lequel on insiste beaucoup. Je vous en ai déjà parlé, depuis le 19e siècle. Le rugby est surtout conçu comme un vecteur pédagogique, un vecteur d'élévation de l'individu, d'autonomisation, hein, voilà, et toujours dans une solidarité de groupe. On est dans de l'individuel, mais aussi du collectif. Voilà. Et ça, c'est quand même des éléments importants. Et donc, il y a une association qui est très célèbre, voilà, hein, qui fonctionne bien dans la région. C'est l'association Rebond qui essaye, avec des bénévoles, beaucoup de bénévoles, d'aller dans les écoles, etc., pour enseigner le rugby et faire reconnaître ses valeurs. Voilà, bon, pourquoi inscrire vos enfants à l'école de rugby, plaisir, concentration, mentalité, équipe, respect, compétition. Donc, voilà. Et puis. Ah, quand même, le rugby, avant tout, après tous ces trucs de business, de valeur, de signes, d'histoire, le rugby, une histoire humaine. Alors, vous connaissez peut-être cette phrase de Jean-Pierre Rive, hein, notre casque d'or toulousain. Vous savez, hein, bon. Et le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des hommes autour, et quand il n'y a plus le ballon, il reste l'essentiel. Les hommes. Les femmes ne jouaient pas encore demain, hein, c'était pas ça. Il avait raté quelque chose. Et puis, évidemment, ici, voilà, également, les deux joueurs se congratulent après des échanges un peu sérieux, virils. C'est l'expression consacrée. Merci pour votre attention et de bonnes fêtes à tout le monde.
Il sera allumé d'abord. Il sera
tout allumé. Alors, qu'est-ce qu'il y a pas... Qu'est-ce qu'il y a des choses à dire là?
Il y a donc plein de choses.
Oui, j'imagine. Alors, c'est vous.
Lumière.
Moi, je n'ai pas dormi grand mot.
Alors,
oui, ça va.
Qui commence?
Tiens, moi je veux bien commencer.
Allez, vas-y.
C'est vraiment anecdotique.
Parce que dehors on t'entend là.
Oui.
Oui.
Bon, moi c'est vraiment anecdotique. Je voudrais demander comment se prononce exactement le nom de ce sport.
Ça se prononce rugby con.
À la toulousaine.
Ah bah là, merci monsieur.
Rubicon. À ne pas confondre avec le Rubicon. Que l'on, que des fois, on franchit.
C'est Rubicon.
Ou, question, ou peut-être une relation, une expérience vécue, etc. Hein. Je sais qu'il y a quand même un peu de
Moi, j'ai pas de questions, parce que je me suis beaucoup amusé. Et comme je suis vieux, j'ai une longue mémoire. Et je pense qu'à propos de mondialisation, le grand changement, c'est un monde de satellites géostationnaires de communication qui ont permis de suivre les matchs à l'autre bout du monde en direct. Je me souviens de France-Afrique du Sud, de 71 à Durban, qu'on évite de montrer aux enfants parce qu'il y a eu 3 minutes de combat. La télévision publiquement ne repasse plus, mais c'est les années 70-80 où brusquement on pouvait regarder l'Afrique du Sud, la frontière de Nouvelle-Zélande à l'autre bout du monde. Et ça, alors, c'est un changement total. Et je pense que la Coupe du Monde, quand elle arrive là-dessus, sinon ce n'était pas possible. Voilà. Je crois que c'est...
télécommunication.
Le changement.
Ah oui. J'ai oublié de citer Canal Plus qui avait racheté.
Le changement d'échelle de communication là, a été déterminant.
C'est sûr.
Voilà, c'était donc, c'est 70-80 le tournant. Ouais.
Tout à fait une bonne relation.
Qui d'autre?
Moi j'ai assisté à un match de rugby à 13. À Perpignan. J'ai trouvé ça très très bien.
Ah oui.
Parce qu'il n'y avait pas de mêlée et c'était les passes, c'était très très bon sur le terrain quand c'était sauvé. Après, je sais qu'on n'est pas nombreux avant de jouer des matchs de rugby à 13. Et je crois qu'il y avait aussi un club de rugby à 13 assez modeste.
Ah oui, oui, oui.
J'ai un ami.
Il y en a peut-être encore, non? Je ne suis pas au courant de ce qui s'est fait après ça. Alors, j'avais fait faire une petite étude, des étudiants une fois. On avait été dans les Pyrénées orientales, et entre autres, je voulais leur faire saisir du doigt les ambiances dans ce pays. Et vous avez la ville de Perpignan, vous savez, et la plaine tout autour, couverte de vignobles, et plein de petits villages, avec des vignerons. Avec le stade de rugby, le café, l'église, les femmes qui allaient à l'église, les hommes qui allaient au café, puis après au stade. Hein. C'était un rythme de vie bien particulier, des troisième mi-temps très chaudes. Mais sur le plan neurologique, à un moment donné, le 15 était essentiellement concentré sur la ville de Perpignan. Et autour, dans toutes les petites villes et banlieues autour, c'était du 13. Saint-Estelle, Pierre. Et alors là, on avait une cartographie du monde social. On avait le monde bourgeois, ben, classe moyenne, etc., de Perpignan. Et autour, on avait ce monde des vignerons, souvent assez proches des Catalans. Espagnols, enfin des Catalans de l'autre côté de la frontière, des Sud-Catalans, faut que je dise de bêtises, il y a des Nord-Catalans, des Sud-Catalans, et donc assez proches des Sud-Catalans, et qui étaient souvent un peu teintés d'anarchisme, etc. Et alors ils se détestaient avec celui 15. On avait une opposition, là, c'est des choses que je veux dire, mais il y avait une opposition sociale, rubistique et politique. Il y a là, Lézignan, Carcassonne, les 13, il y en a encore. Limoux, enfin, Lézignan, ça marche encore, hein. Bien. Yeah. Carcassonne aussi. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui veut.
Tout d'abord, bonsoir. Moi, je voudrais revenir sur le problème de l'addiction sur ce sport.
Ouais.
Tout est fou. On n'a pas trop le droit d'en parler.
Oui.
On sort d'une grosse réunion là, il n'y a pas très longtemps, avec le vice-président de la Fédé, le prof addictologue de Rangueil, enfin, le monde quand même sérieux.
Oui.
Le vice-président nous explique que tout va bien, que la Fédé se porte bien. Et quand on veut poser une question un peu pertinente ou typique, on n'a pas trop le droit d'en poser.
Oui.
Parce que quand il m'a expliqué que la Fédé se portait bien, que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de drogue en France,
oui.
Bon, ça c'est que des conneries, il faut arrêter. Parce que moi, mon rêve, c'est que même il y ait des contrôles sur les petits clubs.
Oui.
Et malheureusement, il n'y en aura pas. Ça, c'est clair, net et précis. La seule question que j'ai voulu lui poser, c'est que Sylvie Balibier qui m'explique le problème sur l'Argentine. Mais c'est pas notre faute, il n'y a pas de problème. Donc, je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on va tirer du monde sur ce sport. Ce n'est que mensonge, à ce niveau-là. Et moi, je peux vous dire avec certitude, je m'occupe de gamins sur un village, ici, notamment, que si on avait un contrôle simplement sur les juniors, je peux vous dire qu'on a fallu les compteurs. Donc, à un moment donné, il va bien falloir le mettre le coup de pied de la fourmilière. Je vous remercie.
Enfin, j'étais discret, hein. J'ai bien parlé de l'Oberta, parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors on a découvert qu'en 1995, on a perdu contre le Sud-Africain. Mais les pompes, ah ils étaient vifs à l'époque. Hein. Mais en même temps, il y en a la moitié qui sont morts.
Pardon, excusez-moi.
En 1995, en Afrique du Sud.
Ils
ne
sont pas morts, ils
sont Alzheimer. Ah, ça, je ne veux pas être cynique quand même.
Il n'y a pas rien quand même.
Bon. En tout cas, voilà. Et là, le mystère demeure. Là, on n'en parle pas, ce n'est qu'évoqué. Enfin, j'ai vu une fois jouer les Oblacs. C'est pas possible, enfin, ils sont très forts. Là, c'était des surhommes, quoi. Hein. Oh. Et si, il ne faut pas être dupe non plus. Voilà. Après, moi je connais beaucoup de rugbymen, hein, même dans ma famille, mon milieu, tout ça. Je n'en connais aucun qui se range, hein, qui prend des choses, etc. Hein. Bon, je ne connais pas. Donc je ne vais pas non plus en rajouter, mettre de l'huile sur le feu. J'ai un grand copain là, qui était entraîneur de Courrier, de Castres, enfin de Mayeur, etc. Et il me dit non, je n'ai pas vu de choses. C'est un très grave problème. Il ne me ment pas.
Le danger, c'est l'invasion des publicistes.
Ouais.
Parce que maintenant, les stades maintenant, s'appellent Matmut Atlantique, Groupama. Enfin, moi, je prends rêver parce que je suis vieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prononce le nom du stade, on prononce le nom de ces entreprises qui nous... qui sont quand même machines à faire de l'argent. Et alors ce que je crains, même, c'est que plus on a un spectateur, plus il faut un spectacle. Et plus il y a un spectateur, moins ils sont compétents. C'est-à-dire que par exemple, une tendance, le 13, que je lui reproche moi, c'est que la conquête du ballon a disparu. Les mêlées sont plus disputées, il n'y a pas de touche. Eh bien, mais ça va plus vite. Donc ça satisfait plus facilement, parce que les règles sont moins compliquées, ainsi de suite. Alors, on le voit bien, pour le rugby dans le sud, ils ont des tâches de réduire les mêlées, les touches, tout ça. Il faut que ça court, il faut que ça marque. Alors on a des scores de rugby qui commencent à tourner à ceux du basket. Et personnellement, comme je suis un vieux réac, je trouve ça nul. Voilà. Le danger, c'est ça. C'est que l'argent du spectacle, c'est le temps qu'il faut, des vedettes qui courent. Mais une bonne mêlée bien disputée, ça ne fait pas partie du spectacle. Et j'en parle d'un ancien pilier. Bon, voilà.
Pas trop gros.
Ah ben, à l'époque, un pilier 90 kg était un géant.
Oui, c'est ça.
Maintenant, il est demi mêlé. Et c'est pas seulement la drogue. Les gosses font 2 mètres maintenant. Oui. Quand j'étais jeune, un pilier d'un 1m85, c'était très grand. Oui, mais là, il y a le mélange des gènes qui s'est fait. Le mélange des gènes, la nourriture et tout ça. Enfin. Les bestiaux sont mieux alimentés.
Après, c'est le rugby pro, hein, encore une fois.
Non, mais c'était le rugby des campagnes. On mangeait moins, on était... Et puis, les mariages étaient plus... Enfin, moins de mélange.
Plus concerné.
Oui. Et le mélange, on l'a vu, les années 70-80. Ouais.
Vous avez parlé de mercenariat. Il y a un très beau film qui s'appelle Mercenaire, réalisé par Sacha Wolf, qu'avec Bruno, on va essayer de projeter en Montesquieu en présence du réalisateur avant la fin de l'année. Donc on vous tiendra au courant si on
peut avoir ce film. Ah, c'est gentil, oui.
Moi, j'aimerais demander, dans le football, les enfants sont souvent... ils ont des idoles de joueurs de football. Est-ce que ça existe aussi, à part Antoine Dupont qui a des prouesses, là, mais est-ce que ça existe comme ça dans le football?
Oui, tout à fait.
Oui, c'est pour ça que j'avais écrit Star System. Je crois que oui. Mais ceci étant, pour les enfants, il faut demander à les éducateurs. Je ne suis pas éducateur, moi. J'aimerais bien savoir comment les enfants le perçoivent. Je retourne la question. Mais ça n'est pas évident. Je ne sais pas si dans les chambres, il y a des portraits de Toto. Chez sa copine,
chez les filles, sûrement.
Hein? Chez les filles, oui. Chez les filles.
Ouais, ça peut. Oui. J'étais chez Toto, il n'y a pas une photo.
Alors, en tant qu'éducateur, vous pouvez répondre à votre question. Oui, ils ont tous des idoles.
Oui.
En ce moment, il n'y en a que.
Mais voilà.
Même quand il en parle, il ne faut pas, il s'épuise.
Oui,
c'est la star de ce star, dans le monde entier. C'est la star, vraiment c'est une star. Moi j'ai eu la chance de le rencontrer, en plus c'est un beau mec, vraiment, très chouette. Mais les gosses ne parlent que de lui. Dès qu'ils achètent un maillot floqué, c'est neuf derrière. C'est pas autre chose en ce moment. Bien sûr qu'il y a des stars.
Ça passera.
Et nous ne parlons pas des stars. Néo-Zélandaises, qui pendant un certain temps, quand ils étaient sous l'eau, c'était les stars aussi des championnats. Colombie.
Lou, il y a eu.
Lou, Maga, Eman, je veux dire, il y a eu du grand monde quand même.
Oui, moi ce que j'allais te signaler, c'est qu'effectivement, je pense que le rugby est à l'image de notre société. Je crois qu'on peut être inquiet pour savoir où elle va, la société, et donc le rugby. Mais j'ai envie d'évoquer un message d'espoir, c'est que c'est un sport qui a su évoluer. C'est peut-être le sport qui a fait le plus de modifications de ses règles, que ce soit dans la protection des joueurs, mais aussi dans la manière de jouer. On est passé. Certains se rappellent de laisser à 3 points, qui ne faisait pas la différence avec une pénalité. Je veux dire que. On a même inventé le carton orange.
Il y a quand même l'arbitrage vidéo, pour moi c'est un problème.
Les arbitres,
même si
les
arbitres aussi. Les vieux piliers ne sont pas d'accord.
Les arbitres, je vais vous dire.
Pardon.
Une petite question, monsieur. Où est passé l'esprit français des rugby?
Et dans mon club? Ah, dans les petits clubs,
au stade?
Moi, j'ai joué dans les petits clubs. C'est beau, les petits clubs,
Oui, ça, il y est tout à fait.
Après, au stade Toulousain.
Et oui.
Quand on va dans les... Alors, moi, je suis ouvert à tout, c'est pas la question. Mais l'ambiance, quand j'ai des tas d'équipes, j'ai pas été les voir, le stade Toulousain ou l'Aviron Bayonnais, oui.
Oui.
Quand on est à Bayonne ou qu'on est à Toulouse, à Ballon, à Ernest Ballon, il y a une ambiance fantastique. Il y a une solidarité qui dépasse l'équipe, elle concerne tout le monde, même ceux qui viennent, même les spectateurs provenant de l'autre équipe. Il y a une entente presque miraculeuse pour la société. Si, c'est une belle espérance. Allons tous dans les stades voir des matchs de rugby, même s'ils ont
pas de rugby. Non, nous sommes trouvés assis au milieu de Castré. Au milieu de Castré, où Ernest Vallon, il n'y a pas eu de bagarre.
Ouais.
Nous sommes trouvés assis, les spectateurs sont mélangés.
Et
ça ne se termine pas en rang.
Oui.
C'est pareil.
À Castré, non.
Je sais pas, j'ai pas été à Castré.
Une fois.
Vous avez parlé pour les nombres de licenciés par pays, vous ne parlez pas de l'Italie. Je voulais savoir si c'est un oubli ou si c'est simplement.
Je n'ai pas tout envisagé, là, vous avez cité que quelques-uns. Là, en Italie, il y a
oui,
je ne sais pas combien, c'est quelques dizaines de milliers.
Oui, dans le cas de il y a un oublié.
Oui, j'ai peut-être oublié.
Les 30 000 Italiens, ça vaut 300 000 autres.
Et quand on parle du...
les Italiens, par contre, ils ont fait des progrès remarquables.
Grâce à des entraîneurs français.
Ouais. J'osais pas le dire.
Ça, qu'est-ce que
grâce à un Gersois.
Ah oui.
Quand on parle de l'entente entre le club,
oui.
Vous avez le dernier derby d'Ax. Oui. Monde de Marseille, les supporters étaient ensemble dans le même bus.
Ah oui,
mais c'est ça. Au foot, vous ne pouvez pas le faire.
Ah oui, ça c'est quand même. Bel exemple. Ah oui, cette année c'est plus pareil.
Bon,
allez, à la croûte.
À la troisième mi-temps.
Oui, ben justement, on va peut-être passer à la troisième mi-temps. Avant de rejoindre la salle pour le buffet, je voudrais vous dire que la prochaine conférence de la Pulp en vol, ce sera le 28 janvier, et ce sera sur les nanotechnologies. Quelque chose de sérieux.
530
oui, on en a une origine tous les jours, partout. Voilà. Et ce sera à Rieux-Volbès. Voilà.
Bravo.
Ici, si vous voulez bien empiler les chaises par 5 et les laisser sur place, ce serait super. Merci beaucoup et puis passez un bon moment autour du café.
Merci, c'est bien. Ouais. Salut, je ne t'avais pas vu, je me dis mais où il est. Et je t'ai vu de dos.
Eh oui, je reviens.
Ça fait du bien.